pas une chasseur oriental. Je réfute totalement cette
histoire. Moi, c'est une de compagnie au Katanga. Je pense qu'on peut, en fonction des deux stratégies de précédent, trouver une solution par rapport à ça.
Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans Parole aux auditeurs sur la fréquence de la paix. La direction des provinces, districts, cités et postes d'encadrement administratifs sont supprimés conformément à la nouvelle organisation territoriale du pays. Cette mesure est contenue dans la note circulaire du ministre de l'Intérieur datant du 4 février dernier. Certains observateurs estiment que cette décision risque de paralyser l'administration en province vu la non-effectivité des nouvelles provinces. Alors comment commentez-vous cette actualité? Rejoignez-nous à l'adresse pa@radiocapi.net ou bien nous appelez au 081-890-6315 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook. Toute équipe est là pour vous tenir compagnie. Dieudonné Nyangasa assure la mise en onde de ce programme réalisé par Pierrot et la Mégie et Julie Présa Bongonda, une émission coordonnée et présentée par J.R. Lungembo sous la supervision de Léonard Moulamba. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Nous avons le premier auditeur qui est en ligne, Jean-Pierre Etaïsiro. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour à vous et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole Jean-Pierre. Comment vous commentez le sujet du jour en rapport avec la décision du ministère de l'Intérieur de pouvoir sursoir au fait supprimer, conformément à la nouvelle organisation territoriale du pays, la direction des provinces, districts, cités et postes d'encadrement?
Et nous pensons d'abord que c'est une bonne chose, puisque nous sommes entrés petit à petit vouloir rapprocher ce qui a été prévu dans la Constitution, que nous puissions avoir des districts, que nous puissions avoir des futures provinces qui vont remplacer les districts actuels. Ça, c'est une bonne chose. Et aussi remplacer certaines cités à communes et des villes aussi. Ça, c'est une bonne chose. De ce point de vue-là, nous apprécions nous félicitons les gouvernements pour cette mise en place. Mais, de l'autre côté, nous sommes en train de voir que toutes ces personnes qui travaillaient auprès de l'État congolais, toutes ces personnes qui ont travaillé pendant beaucoup de temps, tout de suite, ils prennent juste une lettre pour leur dire voilà, et ici, c'est là, et on change tout. Sans pour autant qu'on puisse leur dire voilà, toute personne qui a assumé telle fonction pourra désormais assumer telle autre fonction, ou en attendant ces mesures pour qu'ils en application, on va faire ceci, cela. C'est que, du point de vue de l'information, nous n'avons pas encore eu cette information-là. Et je pense que toutes ces personnes sont en train de s'inquiéter aujourd'hui d'avoir servi l'État congolais pendant longtemps, et qu'aujourd'hui, brusquement comme ça, ils entendent que non, ils n'ont fait des fonctions, ils ne savent pas à quel sens ils vouaient. C'est là où se posent des problèmes.
Voilà, donc Jean-Pierre, si on retient bien pour vous, c'est cette décision, c'est dans l'esprit et la lettre des dispositions constitutionnelles, et c'est ce qui permet à votre niveau de vouloir vraiment apprécier la mesure. Mais votre inquiétude réside dans la manière dont on a procédé pour au fait exécuter cette décision. Vous avez estimé que cela a été fait à la hâte, les gens n'ont pas pu se préparer par rapport à cette nouvelle réalité, dans la mesure où il n'y a pas eu des mesures transitoires ou encore des mesures conservatoires pouvant aider à l'application de cette décision d'une manière un peu progressive, question de permettre à ce que l'administration puisse se faire au fait de pas être perturbée, et surtout que les pays connaissent ce que nous appelons la sous-administration, et difficile de pouvoir imposer donc ce que nous appelons l'administration des proximités. Voilà, donc ce sont là vos inquiétudes, Jean-Pierre, par rapport à la question. Nous allons voir si Jean-Louis partage également votre point de vue ou peut-être évoquer d'autres éléments qui entrent dans les débats du jour. Jean-Louis, vous êtes à Arou. Bonjour Jean-Louis.
Bonjour, c'est Jean-Louis depuis Arou.
Bon, moi, je partage le même avis avec le premier intervenant, mais c'est que je m'inquiète sur la gestion de ces cités. Pour le moment, ça devient très compliqué, parce que si on applique maintenant même la décision du ministre de l'Intérieur, nous nous trouvons déjà dans les difficultés de gérer les cités telles que Ziro, telles que Bounia, les cités qui on ne sait pas comment toutes ces cités-là seront gérées jusqu'à l'installation effective de villes. Donc nous regrettons, on ne comprend pas, on n'a pas cette information clairement comment ces cités seront gérées pour le moment, avec quelle autorité. Avec quelle administration, on ne sait pas, parce que les territoires ne vont plus gérer cette cité-là. Donc c'est là où il y a un problème.
Donc pour vous, les problèmes, c'est vrai, comme Jean-Pierre, vous avez salué d'abord la décision, mais le mécanisme mis en place pour la gestion de ces cités soit clairement défini pour permettre à ce que les gens puissent se faire une idée. Sinon, par rapport à vous, il y a encore des inquiétudes, dans la mesure où l'État n'a pas défini cette politique, ce mécanisme efficace pour pouvoir gérer ces cités. Ça pourrait donner l'impression de pouvoir, l'exécutif doit encore s'éloigner davantage de la population. C'est cela, je crois, Jean-Louis.
Oui, c'est ça, parce que pour le moment, ça c'est ça. Nous ne voulons pas plus on se sent que l'autorité, l'équipe de cité, depuis cette décision est sortie, l'équipe de cité ne fait plus ses fonctions. Et puis, sur le terrain, on sent déjà que il y a un vide dans la gestion des affaires de l'administration. Ça se sent déjà, et puis si ça perdit, on ne sait pas, on ne sait pas ce que l'administration de la ville va devenir. Donc moi, je recommande à l'autorité qui a pris cette décision de revoir ou encore de mettre en place vite le mécanisme de préparation, de la gestion de cité à la place de ce chef de cité qu'on vient
Mais Jean-Louis, l'autorité a donné l'explication pour dire ça, c'est en prévision de l'application de toutes les dispositions relatives au découpage territorial.
Oui, bien que c'est une application, mais on doit avoir quand même des mesures d'accompagnement. Lorsqu'on prend une décision, nous devons estimer que la décision est en acte parce que la décision est sur le terrain. Puisque vous voyez, le type de cité avait un profil, avait des charges comme le bourgmestre, comme maire de la ville, qui aujourd'hui, comme il quitte dans son poste, et qu'il n'y a rien là-bas, on ne voit pas comment, parce que nous serons gérés dans nos villes. La situation, par exemple, la gestion des conflits, des parcelles, des choses comme ça, des petites choses, des marchés, ainsi de suite, ça devient un peu compliqué avec le chef de quartier, avec quoi. Donc il y a un peu une confusion. Hein. Si, peut-être ils sont là-bas au niveau du ministère, ils sont dans des bureaux, ils ne comprennent pas ce qui se passe dans nos villes, à l'intérieur du pays. C'est la confusion qu'on total qui commence à régner. Donc il faudrait qu'on mette une mesure d'accompagnement pour que la situation avant qu'on arrive à installer les autorités qui seront mises en place. Nous saluons la décision, nous saluons l'application des lois, mais ça doit avoir une mesure d'accompagnement. Ça
oui, Jean-Louis, oui, si ce n'est pas trop vous déranger, parce que vous êtes là sur place, vous êtes disons à l'intérieur du pays, vous êtes au Congo profond, vous avez la réalité, qu'est-ce qui se passe concrètement chez vous? Si vous pouvez peut-être nous donner un exemple qui, en fait, explique clairement cette paralysie qu'on va constater suite à cette décision au niveau de Haro ou bien Isiro.
Vous voyez, par exemple, il y a le pouvoir de l'état civil. Mmh. Hein, donc, il y a des documents que nous avons. Nous, on a besoin d'aller trouver, par exemple, le chef de cité pour lui demander, par exemple, la naissance, déclaration de ceci, de cela. Le chef de cité doit signer certains documents qui sont nécessaires dans la vie des couples ou encore
la célébration des mariages, il y a beaucoup de choses que le chef ne cite pas. Alors on ne peut pas, si aujourd'hui il n'est pas là, qui va, il est l'officier de l'état civil, s'il n'est pas là, qui va faire ça, parce que le territoire ne va plus gérer cette cité.
Voilà,
je crois qu'il n'est pas là, qui pour ça va faire.
Voilà, je crois que pour votre formation, selon nos sources, d'ailleurs, le gouvernement va accorder le bénéfice de l'urgence aux nominations de bourgmestres dans les différentes cités, en tout cas qui feront office actuellement de communes, selon nos sources d'information. Et en ce moment, sur la table de certaines autorités, il y a déjà une liste qui est en train d'être confectionnée pour les nominations ou encore des désignations de bourgmestres qui pourront animer les cités qui seront transformées en communes dans les jours à venir. Question de faire cette transition avant les élections à venir. Merci beaucoup, Jean-Louis, d'avoir appelé des Harou. Christian, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Christian.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Christian.
Oui, je me présente. Oui, Mouyoumba Christian, de l'Université de Kinshasa, Sciences Politiques, Relations Internationales.
Mmh.
Oui, par rapport à la décision, je suis d'avis avec les prédécesseurs qui ont intervenu, parce que nous estimons que la décision est hâtive et tendancieuse. Je prône sur la non-politisation de l'administration. C'est très important. Quand on prend une telle décision, on doit faire attention ou se repérer sur ce que les anciens agents étaient en train de faire et qu'on puisse les mettre dans les conditions optimales pour qu'ils sachent peut-être quitter ou refaire l'administration. En mettant en compte sur la formation des administrateurs, nous ne voulons pas politiser cette question parce que nous allons tomber dans le ridicule, dans le cercle vicieux. Dans ce contexte-là, nous devrions avoir des motivations premières, des motivations qui font que le ministre chargé de l'Intérieur puisse prendre une telle décision. Voilà un peu ma modeste contribution par rapport à ça.
Oui, oui, Christian, parce que ce qui a été dit sur les différentes chaînes de télévision ou encore différentes stations de radio, que cette décision précède en fait l'exécution des dispositions constitutionnelles relatives au découpage territorial. Donc je crois que c'est dans l'esprit et l'être de cette disposition constitutionnelle que les autorités ayant disons, à charge les attributions en matière intérieure ont pensé déjà anticiper les choses.
Oui, c'est bien d'anticiper, mais l'administration, c'est un processus continuel. Bien qu'il y a des dispositions constitutionnelles qui consacrent un pouvoir décentraliser ces entités, mais les mesures d'accompagnement, ces agents-là qui travaillaient pendant des lustres, pendant des années, quels sont leurs sorts? Et pour les remplacer, quels seront les critères pour trouver d'autres personnels? Parce que nous avons, ici à Kinshasa par exemple, nous avons des bourgmestres qui ont fait plus de 10 ans. Nous avons des chefs de quartier, des chefs de collectivité, et qui n'ont jamais été élus par ailleurs, alors qu'il y a, dans la même constitution, des dispositions prévues pour les élections locales, municipales et urbaines. Donc, c'est bien beau de prendre une telle décision en liminaire de le découpage territorial. Mais je dis, il faut encore qu'on nous informe davantage. Lorsque nous voyons, pour les cas que je viens de citer, il y a des bourgmestres, il y a des chefs de localité, il y a des chefs de district qui ont été nommés, qui font allégeance à certains partis politiques du pouvoir. Alors que ce domaine-là, c'est un domaine qui ne doit pas être politisé. C'est le domaine de la méritocratie. Vous faites des formations en sciences politiques administratives, vous soumettez votre dossier au ministère de l'Intérieur et vous êtes éligible par rapport à ça. Et quand les élections vont arriver, évidemment, vous pouvez postuler. Maintenant, là, on est pris comme dans une ténage. On ne sait plus quoi faire par rapport à ces décisions. Et si ces décisions-là, il y a beaucoup de répercussions dans le Congo profond. Exactement. Et ici, à Kinshasa, on ne voit pas vraiment l'ampleur. Donc, ce sont nos frères administratifs qui sont dans les provinces, qui sont dans la petite territoriale et qui travaillent. On ne peut pas politiser une telle question. C'est une question d'intérêt national.
Merci beaucoup, Christian. Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé de Kinshasa et vous l'avez reconnu. Le problème, peut-être, ne pourrait pas se faire sentir, dans de grandes villes, mais plutôt dans les Congos profonds, l'ont dit vos prédécesseurs à Isiro et à Arou, pour dire que déjà là, il y a perturbation au niveau de l'administration parce qu'on ne sait plus à qui s'adresser quand il s'agit d'un service administratif qu'on pourrait solliciter. C'est des problèmes à régler le plus vite que possible et d'aucuns ont même souhaité qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour résoudre ces problèmes parce que semble-t-il, selon leurs propos, cette décision est une décision hâtive, prise à la hâte et elle n'a pas été vraiment étudiée de fond en comble avant. Merci beaucoup. Guy, vous êtes à Kinshasa également. Bonjour Guy.
Bonjour Guy.
Voilà, c'est plutôt JR qui est à l'antenne, Guy. Vous avez la parole aux auditeurs. Voilà, vous avez la parole.
Oui, un peu comme mon prédécesseur, je pense que la décision, disons, la question est prévue effectivement dans la Constitution. Mais quand on l'a prévue dans la Constitution, c'était suivant un contexte, dans un contexte donné. C'est là qu'il s'est passé beaucoup d'années depuis lors. Les choses ont évolué. Nous sommes maintenant dans un contexte qui demande que la planification puisse être résolue. On ne peut pas comme ça, parce que c'est prévu dans la Constitution, se lancer dans l'exécution de ce découpage territorial sans revoir les contextes, sans revoir l'environnement politique, économique et social dans lequel nous sommes. Et quand nous jetons un rapide coup d'œil sur cet environnement socio-politique et économique, nous nous rendons compte que les moyens font défaut. Il y a énormément de choses importantes dans ce pays pour lesquelles le gouvernement ne cesse de nous dire que les moyens font défaut. Ça va venir graduellement, on nous le dit et nous le constatons. Quand nous regardons le contexte politique, le contrôle de l'État, nous ne nous le cachons pas, est encore très lacunaire dans pas mal de coins du pays. Que ce soit dans les grandes villes ou même dans l'arrière-pays, et pas seulement dans les grandes villes comme un des prédécesseurs vient de dire que le problème va se poser dans l'arrière-pays, même dans les grandes villes. Le président de la République était présent à Beni quand des Congolais se faisaient tuer pratiquement sous ses yeux. Alors, quand nous remarquons le contexte socio-politique, nous sommes pour l'instant tournés vers les élections. Et ce n'est pas la moindre des choses quand nous remémorons comment les deux précédentes élections se sont passées et quels sont les enjeux et défis à relever par rapport aux élections qui sont maintenant attendues.
Mmh.
Est-ce vraiment le moment de parler de découpage? Avec quels moyens? Il n'y a pas de moyens, on nous le dit. Il faut planifier tout cela, c'est quelque chose de très important. Parce que si ça dérape, il n'y aura personne dans les contextes actuels pour pouvoir contrôler quoi que ce soit. Et ça, tout le monde en est conscient. Mais néanmoins, il y a des gens qui veulent absolument y aller. Nous nous demandons à ce moment-là, enfin, quelle est leur motivation réelle?
Donc pour vous,
dont on n'est pas sûr de la quantité de carburant, dont on n'a pas eu le temps d'évaluer l'équipage qu'on vient de ramasser à gauche et à droite, qui montrait dans un tel avion, ce serait des crashs presque assurés.
Oui,
on met pas les pays en danger pour des choses comme celle-là.
Oui, Guy, donc vous estimez que cette décision ne pourrait pas, promouvoir les développements des entités locales telles que souhaitées par les constituants de 2006?
Absolument pas, pour la simple raison qu'elle va mettre le pays qui est déjà assez faible. C'est à peine concevable pour dresser, pour voir un peu certains paramètres socio-économiques se redresser. Mais le pays est tellement faible qu'une telle décision risque, à mon avis, de tout chambarder, de tout remettre en question. Il ne sera même plus question de parler de développement quelconque, il sera plutôt question de parler de la sécurité et des conditions humanitaires. Dans ce cas-là, on ne parle même pas de développement.
Mais parce que nous avons vu dit, si nous référons à notre histoire, l'histoire du Congo, nous sommes partis des combien de provinces, si nos réflexions sont très bonnes, nous partons de 8 à 11, 11, et aujourd'hui on va tendre vers 26, mais partant de 8 pour arriver à 11, on a senti, lorsque on a dû connaître le découpage au niveau du nord-sud, Kivu et les Maniema, et avant même que les autorités à l'époque puissent penser à couper en deux les Kassai, c'est vrai, on a senti quand même qu'avant, les soucis c'était de pouvoir aller tendre vers le développement rapide de la RDC par rapport à notre superficie. Est-ce que, partant de 8 à 11, vous avez senti un changement parce que, à croire vos propos, c'est comme si des 11 à 26, vous mettez un peu quelques inquiétudes.
Les intentions sont nobles, je n'en disconviens pas. Mais le contexte demande que cette décision pour son application soit sursis. Et pour la simple raison que il y a des paramètres qui ne sont pas pour l'instant contrôlés et qui risquent d'apporter plus de mal que de bien. Le risque est tellement fort qu'on ne devrait pas penser à l'exécution de cette
décision
pour le moment.
Voilà.
C'est ça la crainte.
Voilà. Pour votre information, en ce moment, selon nos sources, il y a déjà des dispositions que certaines autorités sont en train de prendre pour éviter quand même ces vides. Hein, pendant ces temps, ces vides juridiques, ces vides des autorités au niveau des provinces, de nommer prochainement des bourgmestres qui vont animer les différentes cités, qui vont fonctionner, qui feront office désormais comme des communes. Voilà, merci beaucoup Guy d'avoir appelé des Kinshasa. Laurent, vous êtes à Arou. Bonjour.
Bonjour. Salut tous les auditeurs ainsi que l'invité du jour. Oui, je voulais juste intervenir pour la décision arrêtée concernant le chef de la cité. Au contraire, moi je voulais dire à mon avis que dès qu'a contenu le chef de poste, puisque lui, il joue le même rôle ou le même pouvoir que le chef de cité ou bien le chef de secteur, c'est lui qui devrait être alors à supprimer, mais le chef de la cité doit garder sa place, puisque en cas de problème dans la cité, il fallait intervenir auprès de cette autorité-là.
Mmh. Voilà, donc pour vous, vous estimez que le chef de cité est encore très important. Par contre, le problème s'est posé au niveau de télescopage entre le chef de cité et le chef des postes.
Oui,
voilà,
oui,
donc
oui.
Si vraiment les autorités pouvaient être. Le chef des postes est d'encadrement. Merci beaucoup, Laurent. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour, Omar. Oui.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Vous avez la parole Omar.
Merci beaucoup JR. Je voudrais vous remercier du verbe que vous m'avez dit. Par rapport à ce débat, moi j'ai envie de dire ceci JR. Nous sommes dans la décentralisation. Mais je voudrais vous dire que tous les espaces territoriaux n'ont pas été décentralisés. Je prends les cas des postes d'encadrement, ceux que vous avez cités qui ont été supprimés. Oui, la décision peut être fondée à la mesure où on vise à décentraliser tous les territoires nationaux. Mais il ne faut pas obliger que ces entités territoriales qui ont été supprimées ont un fondement légal. Je voudrais vous citer la loi du 10 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative, qui a été appuyée par la loi de 2010. Ces lois, à mon avis, n'ont pas encore été supprimées. Et ce qui suppose que ces entités, bien qu'elles n'aient pas la possibilité juridique, doivent encore résister. Il faudra maintenant refuser. Alors, s'il faudra supprimer aujourd'hui, je voudrais qu'un invité du ministère soit là pour qu'il nous dise sur base de quel texte il a fondé sa décision. Car dans la structure administrative du Congo aujourd'hui, malgré la décentralisation, il existe aussi d'autres circonscriptions administratives qui ne sont pas décentralisées, qui sont encore importantes. Ça, c'est mon point de vue juridique, je crois que c'est discutable. Par rapport à la paralysie de l'administration, moi je pense que vous avez raison. Mais avant d'arriver à cela, je pense que cette décision n'a pas été bien accompagné. Premièrement, on n'a pas précisé les mesures pour exécuter. Je vous donne un temps concret. Dans les postes d'encadrement de Benadibele, dans les territoires d'Elkol et Atankoro, où c'est un député provincial qui est venu retirer les clés auprès du poste du chef des postes d'encadrement.
Un député.
Mais on n'a pas précisé, oui, c'est vérifiable, c'est journaliste. Ouais. Les députés provinciaux est allé retirer les clés auprès du chef des postes. Ça génère un conflit grave et puisque l'autorité n'existe plus, il y avait un désordre total. Lorsque le droit n'existe plus, c'est l'agent. Donc il n'y avait pas de mesure d'accompagnement. Or, en droit, on peut être député, on n'a pas le droit d'aller retirer. Le ministre a pris certaines mesures, mais il n'a pas accompagné de mesures d'exécution pour exécuter sa mesure principale. Depuis le moment. On n'a pas pensé au sort des anciens administrateurs. C'est vrai, il faut supprimer, il faut se référer à la volonté des constituants consistant à décentraliser. Mais attendez, si vous lisez la loi que je citais tantôt, c'est que celle de 2010. Ces lois disent qu'au cas où on arrivait à supprimer ces différences comme ça administratives non décentralisées, il faudra que soit prendre les gens qui les animaient, les orienter vers le ministère sectoriel, soit que les transformer, n'est-ce pas, en agent administratif de la fonction publique provinciale ou locale. Est-ce que cela a été fait? En ces jours, ces gens sont au chômage. Un bon matin, on se réveille, la directive va être supprimée, ils ne font plus rien. Moi, je pense que, à part l'aspect juridique dont j'ai fait allusion sur les fondements de cette décision, il faudra aussi penser aux mesures d'exécution qui n'ont pas été régulées.
Oui, Omar, comment, disons, avant cette décision, comment se présentait l'administration des provinces, des cités, disons, la direction des provinces, l'administration dans son ensemble? Est-ce que vous avez une idée? Et est-ce que vous avez également une idée? Quelles peuvent être, selon vous, les motivations de cette décision?
Merci, Gilles. À votre première question, je voudrais dire que depuis la loi fondamentale de 2006, la Constitution, notre administration se comporte comme suit. Nous avons l'État central, là où on voit les sièges des institutions nationales, et nous avons des entités locales décentralisées, ainsi que celles régionalisées. Nous avons les provinces, ainsi que les entités décentralisées administratives, dont la commune, le secteur, la chefferie, ainsi que le territoire. Tous ceux qui n'ont pas été cités sont considérés comme des circonscriptions administratives. Donc, nous avons une administration centrale et une administration locale. Ça, c'est de façon juridique ce qui a été prévu. Donc, il fallait donc, s'il faut décentraliser tous les secteurs territoriaux, prévoir dans les textes ce qui aurait...
Voilà, on a des petits soucis avec la ligne d'Omar qui, en fait, développait la question sur d'abord la motivation de cette décision et aussi la présentation de l'administration dans les temps passés avant cette réforme qui entre aussi dans les dispositions légales de la RDC. Voilà, donc nous allons lire quelques messages qui nous sont parvenus, mais tout en vous rappelant d'abord que vous pouvez également intervenir dans cette émission en composant les 081-890-6315 pour votre intervention en direct.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15, heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie.
Voilà, merci beaucoup. Nous poursuivons avec la parole aux auditeurs. Il y a Mavek Kisambika qui dit ceci. Le pays est préoccupé sans doute par les situations de la tenue des élections qui pourront apporter un changement de la vie sociale du peuple congolais. Les autorités du gouvernement en place doivent toutefois, avant de prendre des décisions touchant l'aspect social, évaluer au préalable si cela pourrait arranger le peuple. Je pense que ce n'est pas le moment de prendre des pareilles décisions car les Congolais de la RDC sont actuellement secoués donc par les coupage territorial, les élections et autres, que les autorités s'occupent de ce qui est très important. Delico Montagna de Matadi, le ministre est allé vite en besogne du fait qu'il n'a jamais préparé les infrastructures possibles, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure pour pouvoir abriter des nouvelles villes, communes et chefs-lieux de nouvelles provinces, mais aussi j'ai peur que de nouveaux animateurs, de nouvelles entités ne soient pas seulement de la majorité présidentielle ou encore, voilà, ruiner donc le clientélisme et mettre dans le chaos. Donc le positionnement politique et laisser une grande partie de la population dans la souffrance. Jean-Robert Gazadi de Monéditou. Cette suppression est une bonne affaire. Elle est la bienvenue chez moi car il est impossible de poursuivre des lièvres à la fois. Le gouvernement devrait en priorité s'occuper d'abord des affaires primordiales comme prendre soin des élections à venir qui sont aujourd'hui un problème dans la bouche de chaque Congolais. nous demandons aux autorités congolaises d'appuyer cette mesure, car elle va contribuer à la diminution des taxations qui font rage actuellement dans notre cher pays. Tom Lumbala de Kinshasa, je ne comprends rien dans leur dans cette façon de faire. Comment, à leur niveau, peuvent-ils toujours être très pressés de prendre des décisions qui ne révoltent rien, qui ne résolvent rien, disons, sinon que créer des problèmes. Bénédiction Mihigo de Bukavu, le vice-premier ministre de l'Intérieur, donne actuellement voilà, tout en oubliant, je ne sais pas, on vient à peine de découvrir ce message, on ne sait pas dissiper, décoder, pardon, les messages, shérif Moussengeloa Nondo de Bukavu, je salue l'initiative du ministre de l'Intérieur d'atteindre ses objectifs, mais on ne sait pas ce qu'on vise et ce qu'on prévient, car la seule préoccupation des Congolais est la paix sur toute l'étendue. Godefroy Chitokongalula de Chimbulu, cette démarche est tout à fait bonne dans la mesure où elle apporte une innovation, mais elle ne pêche simplement au fond, car on n'a pas tenu compte de toutes ces conséquences, les conséquences dont notamment la paralysie de l'administration, mais aussi l'avenir de tous ces cadres et agents qui, l'avenir qui est hypothéqué, d'où je propose qu'on puisse aller progressivement, soit par étapes. Junior, vous êtes à Kananga. Bonjour Junior.
Bonjour Junior, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Vous avez la parole Junior.
Oui, moi je pensais peut-être que vous avez un invité du ministère pour que je puisse poser ces deux questions. Que deviendront les districts, pour que ces districts gèrent bien les territoires. Donc les territoires seront accrédités à quelle instance? Voilà un peu la première question.
Alors ben pour vous, qu'est-ce que vous reprochez à cette décision?
Je reproche à cette décision parce que selon la Constitution, les districts existent dans la Constitution, c'est-à-dire le district dirige bel et bien les territoires. C'est-à-dire le chef de district donc a le privilège, soit il est le chef des chefs de secteur et des chefs des territoires. Donc c'est lui qui prend les informations auprès des territoires pour aller déposer ces informations auprès du gouverneur. Maintenant, je ne sais pas, on va suivre qu'elle réagit.
Voilà, notez parce que votre inquiétude, malheureusement, on n'a pas d'invité. Le district fonctionneront comme des chefs-lieux des provinces et les territoires continueront toujours à dépendre des districts. Donc, je crois que c'est dans cet esprit-là que fonctionnera désormais donc l'administration publique au niveau des provinces. Donc, et voilà, donc, le territoire, donc, comme l'a redit, les territoires des nouvelles provinces. Parce qu'on a quitté 8, 11, maintenant, on tend vers 26 provinces, donc 25 plus. La ville de la province de Kinshasa.
Du Kata, ici au Kasaï occidental, maintenant. On aura combien de. Par exemple, si nous prenons la ville de Tikapa qui sera le chef-lieu. Une ville donc, la ville n'est pas urbanisée, il n'y a pas ni moyen.
Junior, ne faisons pas de l'amalgame, parce que là, c'est déjà un autre problème, la gestion de la cité, les réalités, les défis à relever, ça c'est un autre problème. Je crois que nous allons revenir dans un autre débat pour voir tous les défis, c'est vrai, le découpage, la décentralisation, mais tous ces défis à relever, c'est ce que nous évoquerons d'ailleurs, nous pensons dans les jours à venir, lorsque nous entrerons dans la phase de campagne électorale, proposer une série d'émissions, si vous êtes gouverneur, quelles sont les priorités pour relever les défis de chaque province, nous allons faire des débats autour de ça, même des débats autour de si je suis député et quel sera mon travail dans ma base. Donc voilà, nous allons faire des débats comme ça. Prenez votre mal en patience. Dans un mois, nous vous donnerons rendez-vous par rapport à cette question, Inch'Allah. Merci beaucoup, Junior. Maître Joël, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Merci. À vous aussi, bonjour, Junior.
Vous avez la parole, Maître Joël.
Hier, en écoutant les autres, je pense qu'il est important d'éclairer les choses. Il est très important d'éclairer les choses. Vous savez qu'on a eu à promulguer dans notre pays plusieurs lois. Je vais citer la loi sur la libre administration des provinces et la loi sur la décentralisation. Et récemment, on vient de promulguer la loi sur le découpage, mais aussi à la loi électorale. Et notre population doit d'abord savoir ceci. Les Les découpages, la loi qui est votée par rapport au découpage, nous aurons cette fois-ci 26 provinces. Il y a nécessité qu'on puisse avoir en tête que ces nouveaux provinces ont besoin d'une administration, vont plus dépendre de l'unique province qui peut être subdivisée dans les cas d'espèce en plusieurs provinces. Et il est important que cette mesure d'application puisse être prise, parce que c'est juste les mesures d'application qui accompagnent déjà d'autres lois qui ont été déjà promulguées. Mais par rapport aux élections, parce que d'ici là, il y a les élections qui se pointent aussi à l'horizon. Là, je suis au niveau de la décentralisation. Donc, la loi sur la décentralisation prévoit clairement que les chefs-lieux des provinces, disons des territoires, sont désormais appelés les communes. C'est juste ce que je peux dire. Et puis les districts, ce sont les districts qui sont supprimés. Donc on n'aura plus une institution appelée district, mais les chefs-lieux, disons, des territoires sont devenus des communes. Et il y a aussi d'autres cités qui étaient dans un territoire, on peut trouver plusieurs cités, et ces cités-là ont aussi cette appellation-là de la commune rurale cette fois-ci. Mais il y a un petit problème que je vais soulever ici. Vous savez qu'il y a d'autres chefs-lieux de territoire qui ont le statut de la ville par rapport à un décret qu'avait pris l'ancien premier ministre. Mais vous savez que et la commune et la ville, ce sont des entités décentralisées. Comment vont se gérer cette fois-ci? On va faire de telle sorte que les anciens chefs-lieux de territoire qui sont devenus des communes, mais ne puissent plus, à mon avis, qui sont devenus aussi, qui ont aussi les statuts de la ville. Donc, comment il y aura l'administration communale dans cette même entité et l'administration urbaine qu'on essaie un peu de nous expliquer, mais aussi l'administration au niveau du territoire, parce que le territoire, c'est une entité déconcentrée. Et notre population doit en quelque sorte connaître qu'il y a des entités qui sont déconcentrées et il y a celles-là aussi qui sont décentralisées. Très important, comme nous aspirons aux élections locales, qu'on puisse déjà connaître qu'il n'y aura plus ces entités-là et qu'il y a des postes qui vont se créer par rapport aux nouvelles provinces. Et là aussi, c'est programmatif, hein. Il faut aussi pas voir directement que par le fait que le ministre a promulgué, disons, a pris cette décision, les postes sont supprimés. Non, il faut aussi voir l'effet.
Voilà, maître Joël, je pense que ceux qui seront désignés pour animer des communes dans les jours qui viennent, parce que selon nos sources, je l'ai dit tantôt au début, peut-être que vous avez pris en cours de cette émission, que les autorités se sont mises déjà au travail pour désigner des nouvelles animateurs de ces communes, donc de ces cités qui vont fonctionner désormais comme des communes. Et je crois que, encore vos propos, vous plaidez déjà pour une campagne de sensibilisation. Je vois que les autorités du ministère de l'Intérieur sont en train de nous suivre en ce moment. Voilà, donc, pour déjà se mettre à expliquer les tenants et les aboutissants de cette décision. Il est bien fondé surtout de cette mesure à la population à travers le pays, vu l'étendue et l'immensité de notre pays. Merci beaucoup, maître Joël, d'avoir appelé de Kinshasa. Claude, vous êtes également dans la ville province de Kinshasa. Comment commentez-vous cette actualité, Claude? Bonjour.
Bonjour, Gérard.
Vous avez la parole.
Oui, merci pour la parole, Gérard. La décision du ministre n'est pas si mauvaise, mais je crois qu'elle est prise à la hâte. Il y avait un grand travail qu'il fallait faire d'abord. La constitution date de 2006. Il y a eu un forum qui s'était tenu. Il y a eu des mesures d'encadrement ou de suivi de cette décentralisation qui avaient été prises par même des décisions en 2008. C'est ce que vous voyez, le gouverneur s'est réuni. Il était censé que ce gouverneur doive se réunir au moins chaque année. On s'était donné une période de 5 ans pour expérimenter cette décentralisation. Et vous allez constater que, au bout de 5 ans, les gouverneurs se sont réunis seulement 2 fois. Et au-delà de ça, il y a eu une commission nationale ou un conseil national qui reprenait le premier ministre, les différents ministres qui devraient s'occuper du suivi et qui devraient se réunir chaque trimestre. Et cette réunion n'a jamais eu lieu pendant 5 ans. Donc, ça dit que le suivi même de la décentralisation n'a pas été respecté. Et cette décision telle qu'on l'a prise, on a peur qu'au lieu que ça nous amène le développement dont on attend, que cela nous amène des problèmes. Donc, je crois qu'il y a moyen de retarder les choses, comme les élections se pointent, aller aux élections et essayer de voir ce problème de décentralisation petit à petit, avec beaucoup d'assurance qu'il n'y ait pas de dérapage. Si on prend l'exercice fait dans le passé sur le Grand Kivu, si vous évaluez le développement ou la progression qu'il y a eu aujourd'hui dans le Grand Kivu, vous verrez que c'est au bout d'une vingtaine d'années qu'on commence à sentir le fruit
tout à fait
de ce développement-là. Alors, cette expérience doit nous renseigner, doit nous conseiller de sorte qu'on ne prenne pas le risque d'aller à la hâte avec des choses. Je crois que le ministre, cette décision-là est malvenue pour le moment. Il fallait se rassurer d'abord que la décentralisation, le processus est respecté et que tout est mis au point, les infrastructures, tout comme ça, parce qu'aujourd'hui, quand j'ai lu la loi, je trouve que pour le gouverneur de 15 provinces qui seront créées bientôt ou qui sont créées, ce sont les députés provinciaux qui sont hors mandat qui vont se réunir pour désigner un gouverneur. Et je ne sais pas, d'abord, nous les reprochons qu'ils sont hors mandat, et pourquoi pas attendre des élections, avoir des députés provinciaux élus qui ont mandat et qui peuvent aller dans toute élection pour désigner le gouverneur.
Voilà, nous donnerons d'abord le temps de pouvoir étudier cet aspect des choses et en proposer peut-être un débat dans les jours à venir, les préalables et aussi l'implication, l'impact que cela aura dans les jours à venir sur le plan politique. Merci beaucoup Claude d'avoir appelé de Kinshasa. Tony, vous êtes à Matadi. Bonjour Tony.
Bonjour,
vous avez la parole, après avoir suivi vos prédécesseurs.
J'ai vu en face la lettre circulaire de M. le ministre.
Oui.
En principe, la circulaire n'a fait que rappeler les lois organiques établies en matière de la décentralisation. Mm-hmm. Parce que nous l'ignorons que la décentralisation, du moins, a plusieurs textes là-dessus. Alors, dans ce qui concerne la situation des districts, de cités et tout ce qu'on sort, j'ai constaté, c'est comme si dans la circulaire, il y a une confusion qui règne là-dessus. Où le ministre a fait allusion tantôt à l'administration territoriale, tantôt à l'administration publique, entre autres les services publics de l'État. La direction des provinces n'est pas une entité, c'était un service public de l'État. Sa situation, certainement, a créé une vide juridique du tout ce qui concerne les provinces. Pour ce qui concerne le cas de l'administration, nous qui sommes les services, par exemple, je vois dans la lettre publique du ministre, il fait allusion les rapports professionnels entre les gouverneurs. Et le chef de division. Il dit que non, cela passe par les canaux de, par les ministres provinciaux. En ordre de conscience, à mon humble avis, il n'y a aucun texte qui dit les ministères provinciaux ainsi que les chefs de division. Or, dans la loi dont le ministre a fait allusion, dans l'article 64-63, là, la loi fait mention au gouverneur des provinces, c'est lui qui assure la coordination et la direction des services publics de l'État. Donc les rapports entre les chefs de division et les gouverneurs. Mais, quand ce qui concerne les rapports entre les ministres provinciaux et les chefs de division, par exemple, il n'y a aucun rapport. Or, un ministre provincial ne peut pas prendre une décision sur les agences publiques de l'État. Nous dépendons de l'État. Donc, il y a un entorse là-dessus. C'est la raison pour laquelle je remarquais, c'est comme si le ministre est parti très tôt en besogne. Dans ce qui concerne sa circulaire. D'ailleurs, il juge ça inopportune pour quand dans nous autres. Donc, c'est ça, c'était ma petite compte que je voulais apporter là-dessus.
Merci beaucoup, Tony. Pour vous, vous avez peut-être l'occasion de bien traiter cette lettre, reprenant donc la mesure de suspendre les postes d'encadrement, la cité et le district au niveau des provinces. Vous avez confirmé que cela pourrait perturber ou paralyser exactement l'administration à certains niveaux. Vous estimez, comme vos prédécesseurs, que cette décision est très hâtive. Merci beaucoup. Franck, vous êtes à Vienne. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les amis qui se sont déjà exprimés.
Oui, allez-y, Franck.
Merci beaucoup. Je crois que je vais tenter de me résumer par rapport à ce que les autres ont déjà dit. Vous savez, j'ai une décision peut être légale et bonne, mais encore faut-il qu'elle se fasse accompagnée de certaines mesures comme les garde-fous. Notre ministre de l'Intérieur, c'est un constitutionnaliste et nous le respectons. Il s'est bien entendu référé au texte avant de prendre une telle décision, mais quelque part, on a l'impression qu'il y a des préalables qui n'ont pas été respectés et lesquels risqueraient de créer trop de confusion, trop de conflits et trop de problèmes, surtout aux approches des échéances électorales. Puis pour un État qui se respecte, on sait qu'il y a aussi un principe de la continuité des activités étatiques. Si nous devons d'abord prendre la superficie et la grandeur de la RDC, c'est un pays continent. Alors, si maintenant on doit supprimer certains postes étatiques sans penser aux palliatifs, donc quelque part, moi je ne sais pas, par rapport à ce qui va se faire, comment dans certains milieux la vie sera réglée. Parce que moi, si je peux d'abord comparer le modèle de l'administration de certains
pays, oui. Peut-être vous aider rapidement. Oui. Les districts, en fait, vont fonctionner comme chef lieu des provinces et les territoires vont continuer à dépendre des districts, voilà, qui des nouvelles provinces. Et je crois qu'au niveau des cités, les cités feront office de communes, donc ils seront animés par des bougoumestres. Voilà donc comment se présente un peu la hiérarchisation de l'administration par rapport à la mesure prise par l'autorité de l'intérieur.
Oui, monsieur le journaliste, si je comprends, je vous comprends. Nous militons tous pour que ça puisse marcher. Mais je crois que quelque part, avant de prendre certaines décisions, je me répète, il faut certains préalables. Parce qu'on va conférer ce pouvoir à. Mais est-ce qu'on a déjà pensé à certains préalables? Tous ces gens ont-ils des locaux pour fonctionner?
Oui,
comment ils vont travailler dans quel fonctionnement? Oui.
Nous avons dit ça, c'est un autre débat. Nous allons y revenir, le préalable, les défis qui attendent pratiquement cette décision. Donc voilà, donc il y a tant de choses que nous allons exploiter dans les jours à venir. C'est pourquoi nous avons évité vraiment faire l'amalgame par rapport au sujet du jour. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les petits commentaires qu'on va faire par rapport à la décision prise et aussi par rapport à la motivation. Donc bref, c'est autour de cela.
Ouais, je crois que la décision telle que nous la voyons dans sa teneur, elle peut être bonne, mais elle ne répond pas convenablement au contexte sociologique et politique dans lequel nous nous trouvons. L'intention peut être bonne, mais encore faut-il qu'on puisse préparer aussi les citoyens à comprendre qu'à quel moment on va prendre une telle décision par rapport à ça. C'est par rapport aux échéances électorales. Si on doit seulement supprimer sans penser au palliatif, mais écoutez, nous sommes aussi quand même, personne nous raisonnant, donc nous sommes là en train de nous poser des questions. Pourquoi on veut seulement supprimer sans penser au palliatif? Quels sont ces gens qui seront nommés à de tels postes?
Alors,
des séries de questions que nous nous posons.
Oui, alors moi, je vous pose une question, Franck, parce que c'est vrai, c'est une émission de réflexion. Vous pensez qu'il s'agissait là de quelle motivation? Quelle est la motivation de cette décision pour vous?
Mais la décision a été prise dans quel contexte? C'est dans un contexte sociologique et politique. Et de quelle motivation pouvons-nous encore parler aux approches des échéances électoralistes? Seulement si on peut voir comment les scrutins pourront se dérouler. Moi, je trouve que tout ça, ce sont des mécanismes pour préparer des échéances électorales selon les calculs et les visées d'eux. Donc, on ne peut pas aller par quatre chemins pour ne pas devoir dire, en des termes aussi clairs, ce qu'on est en train de voir avec les deux jeux que Dieu nous a donnés. Contrairement, je ne peux pas comprendre qu'on demande à quelqu'un de déménager d'une maison. On lui dit, tu vas aller habiter là-bas, mais la maison dans laquelle il doit habiter n'est même pas encore construite, les rues ne sont même pas encore éclairées, donc on va lui dire seulement, tu vas aller là-bas, mais il ne sait même pas dans quelle maison il va habiter. Donc quelqu'un va maintenant déménager avec les enfants, avec le meuble, mais il ne sait même pas dans quelle maison il va vivre. C'est un peu dans
voilà, merci, de merci beaucoup Franck. Maurice, vous êtes à Kinshasa, bonjour Maurice.
Bonjour aux auditeurs de la radio.
Vous avez la parole, Maurice.
Oui, je veux dire que je me plains d'une observation. Je crois qu'il a été en fait déjà relevé aux auditeurs qui ont succédé avant moi. Vous savez qu'à chaque...
On a des petits soucis avec la ligne de Maurice. Je crois qu'on va... On va le relancer, le temps de prendre Maître Sonville à Lubumbashi. Maître Sonville, bonjour.
Bonjour, Monsieur J.R., bonjour à tous les millions d'auditeurs de Radio Okapi.
Vous avez la parole, Maître Sonville.
J'estime que l'objet de la circulaire est crucial. Et pour mettre un gouvernement de Kossa, de proximité avec les administrés. Mais néanmoins, Monsieur J.R., il y a un problème. J'estime que le vice-premier ministre nage dans l'inconstitutionnalité, lui qui est constitutionnaliste. Il y a plus de possibilités. Il ne peut pas placer la charrue avant les bœufs. C'est maintenant que je vais apprendre que les mesures d'accompagnement sont sur sa table. Vous ne pouvez pas faire cela.
Oui, Maître Sonville, pour vous, vous inscrivez les débats par rapport au temps ou par rapport aux dispositions légales? Parce que la décision, elle est légale.
À l'opportunité de cette note circulaire. J'estime que cette note circulaire n'est pas opportune pour le moment.
Oui, ça c'est discutable. Ça c'est discutable.
Oui, ce n'est pas ça la priorité. Parce que d'abord, en ce qui concerne le découpage, il faut qu'on constitue des commissions. Des commissions qui font retourner le travail pendant 30 jours. 30 jours, il faut que ces commissions-là amènent leur rapport devant les assemblées provinciales. Ça sera tout un problème. Mais maintenant, comment sont administrés les cités? Comment sont administrés les districts? Comment sont administrés les postes d'encadrement? Par exemple, à titre illustratif, la cité de Kassimbalesa. Il y a l'entrée des tracts, il y a la sortie des marchandises. Comment cette cité est administrée? Moi, j'estime qu'ils sont en train de créer un dysfonctionnement sur le plan administratif. Et un acheteur, pourquoi cet acharnement du vice-premier ministre? Tout ça, moi, j'estime que c'est aller vers le glissement. Parce que c'est comme ici, on va prendre du temps. On va nommer les gens. Par quel décret? Par quelle loi? Est-ce que c'est prévu dans la Constitution? C'est pourquoi je dis que le premier ministre nage dans l'inconstitutionnalité. Vous comprenez un peu, M. Gilles?
Oui, mais c'est là où nous ne parlons pas le même langage. Cette inconstitutionnalité, selon vous, repose sur quoi? Parce que la décision, elle est elle-même inconstitutionnelle. En prévision de prochains découpages territoriaux.
D'après les dispositions constitutionnelles, les entités là qu'on vient de suspendre ont une personnalité juridique.
Mm-hmm.
On ne peut pas se lever un jour, à un bon matin là, on supprime le tout. C'est de l'inconstitutionnalité. Il y a une procédure à suivre pour suspendre ces entités là. Ce n'est pas parce qu'on est premier vice-premier ministre et qu'on se réveille un bon matin.
Alors, si vous pouvez éclairer quand même l'opinion qui nous suit et qui n'a pas la maîtrise de ces procédures-là, comment ça se fait concrètement?
Bon, ce sont des têtes
qui devaient
être débattues au niveau de l'Assemblée, mais qui n'a jamais été fait. Parce qu'une loi doit être toujours abrogée par une autre loi.
Tout à fait.
Et là, le retrait de la personnalité juridique. Lui, le vice-premier ministre, connaît là où il doit se faire les retraits de responsabilité juridique. On ne peut pas se lever à un moment donné, un jour, et on supprime cela.
Voilà, donc comme Laurent qui vous avait précédé, donc vous pensez qu'il y a un torse par rapport à cette mesure. Merci beaucoup en ce qui concerne certains aspects juridiques. Mais il faut noter que cette décision, elle est aussi constitutionnelle. Merci beaucoup, Maître Sonville, d'avoir appelé de Lubumbashi. Kelly, vous êtes à Fungurume au Katanga. Bonjour, Kelly.
Bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Vous avez la parole, Kelly.
Merci pour la parole, Gérard. Vous savez, en analysant l'esprit de la lettre et de la lettre du ministre, vous sentez qu'on tend toujours vers l'épuisement. Suspendre le poste d'encadrement administratif, la cité, le district, ainsi que le directeur des provinces, cela crée un vide dans la libre administration de notre pays. Pourquoi je dis ça? Parce que, d'abord, est-ce que l'administration de la province, le directeur des provinces, est-ce qu'une entité décentralisée? Mais non, les pays recherchent toujours à violer la Constitution. Pourquoi ça? On va d'abord suspendre ceux qui sont exercices et puis chercher à nommer les autres. Or, la Constitution parle que tous ces gens-là seront élus. Quand vous analysez bien cette lettre du ministre.
Oui, mais ils seront élus, Kelly. Mais en attendant, avant que nous allions aux élections, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser ces vides juridiques?
Mais alors, ils vont chercher à créer les vides juridiques pour rien. Il faut aller peut-être laisser ceux qui sont en fonction continuer jusqu'à ce qu'ils vont faire la remise des vides avec ceux qui seront élus et ceux qui devraient se faire. Parce que quand vous observez bien, il y a la province comme la province de Nord-Kivu, Maniema, Kivu et Bas-Congo, qui ne sont pas concernés par la loi de la décentralisation. Mais quand vous suspendez le directeur de province, ou vous suspendez le chef de cité ainsi que le chef de poste d'encadrement statique, comment est-ce que toutes ces provinces-là vont fonctionner au moment où la loi sur la décentralisation
n'est pas encore? Merci beaucoup, Kelly. Merci, merci. Jérôme, on va terminer avec vous. Jérôme, vous êtes à Bounia. Bonjour, Jérôme.
Ah, bonjour, JR.
Vous avez la parole, Jérôme.
Ah, ok, merci. Je pense que la décision de vice-premier ministre, puis ministre de l'Intérieur, n'est pas si mauvaise, mais ce qui pose problème à l'état actuel, il s'observe une sorte de vide administratif, particulièrement quand vous êtes même à Bounia. Parce que là, quand le district ne va plus fonctionner et que la cité ne fonctionne pas, en attendant, mais au niveau de la cité de Bounia, qui est l'autorité habilitée à prendre des décisions en cas de problème, et ça s'observe. Mais néanmoins, l'avènement, toute la décision, tout que le j'attends de la province, parce que depuis que la Constitution a prôné, depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait. Mais la question qu'on se pose à l'état actuel, que si c'était dans 3-4 mois que la nouvelle province devrait être installée, pourquoi attendre aujourd'hui, après que nous ayons terminé avec le premier gouvernement, la première législature, et qu'aujourd'hui nous sommes la deuxième législature pour en parler, parce que ça devrait faire d'abord priorité au départ, et que nous sommes à la fin du deuxième mandat d'actuel exécutif, et que nous amène maintenant ce débat sur la province et suppression de ces entités, ça pose un réel problème. Moi, j'estime à moi que, comme disait le gouverneur en passant ici par Bounia, que non, il était question qu'on puisse d'une manière concertée voir dans quelle mesure installer ces autorités qui sont d'abord en fonction pour la continuité administrative et que nous nous approchions à l'état actuel des nouvelles élections pour la nouvelle législative. C'est à ce moment-là, au moment de l'effectivité, qu'on pourrait voter les nouvelles autorités telles que prévues dans la Constitution pour éviter
voilà,
les
merci beaucoup, autres. Merci beaucoup, Jérôme, d'avoir appelé les Bounia et surtout d'avoir apporté cette contribution dans cette émission. Nous disons également merci à Dieudonné Nyangata qui a assuré la mise en onde de ce programme. C'est par ici que nous mettons un terme à cette émission. Nous prenons rendez-vous avec vous demain, sur moi, dans un autre numéro. Merci également à Pierrot et Lamégie et Julie César Bongonda qui ont réalisé ce programme qui vous a été coordonné, présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Leonard Moulamba. À très bientôt.